Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'émergence en Afrique, quel avenir pour le continent ? Les historiens se permettent quelquefois des fantaisies ou des libertés, en ce sens qu'on les attend pour parler du passé, mais il arrive très souvent, et il arrive de plus en plus, qu'ils parlent du futur, en partant de l'idée qu'ils le connaissent, les mouvements qui nous ont conduits dans le présent actuel. Ils connaissent aussi la lourdeur de ces mouvements, dont certains peuvent continuer indépendamment de notre volonté, et à partir de là, ils peuvent faire des scénarios par rapport au futur. Et ce n'est pas par hasard que un certain nombre de grandes entreprises, notamment dans les secteurs de pointe, utilisent justement les sciences sociales, l'économie politique et l'histoire pour envisager des scénarios pour l'avenir, notamment pour éviter d'être victime de ces scénarios et d'être un véritable acteur. On peut donc se réjouir d'une conférence qui vient d'avoir lieu à l'UNESCO, dont le thème était justement l'émergence de l'Afrique ou l'émergence en Afrique. Pour en parler, nous avons avec nous l'un des experts les plus éminents sur ces questions qui vient de participer à ces entretiens. C'est le professeur Kako Nubuko qui est un ancien ministre au Togo chargé justement de la prospective et qui aujourd'hui enseigne à l'université d'Oxford. Il n'est pas besoin de dire que Oxford est l'une des universités les plus anciennes et les plus importantes au monde, et il enseigne là-bas dans un groupe où il y a les Global Leaders Fellow. Il est donc agrégé dans cette institution comme les leaders mondiaux. Professeur Nubuko, ce concept d'émergence, il faut peut-être en parler un peu, parce que pendant longtemps on a parlé plutôt de développement. Est-ce que on a renoncé à cette problématique du développement pour parler d'une autre problématique qui est celle de l'émergence?
Oui, je crois qu'on est dans le politiquement correct. Parce que, comme vous l'avez dit, pendant longtemps, on a parlé de développement à tel point que le concept a été connoté en pensant notamment à l'école développementiste ou développementaliste, c'est selon. Et comme les années 80 ont été les années de l'ajustement structurel, avec le primat du court terme qui s'opposait au long terme, donc le temps du développement, le temps du changement structurel, on a trouvé intéressant, notamment pour désigner le processus de développement des pays asiatiques, d'utiliser le terme émergence afin de montrer ou de faire croire que c'est la suite de l'ajustement structurel qu'il y a finalement ce processus d'émergence. Et donc, je crois que nous sommes dans un domaine où la sémantique, me semble-t-il, joue le rôle finalement de cache-sexe d'un processus qui est un processus beaucoup plus long que ce que veut faire croire cette idée d'immersion soudaine, cette idée d'émergence.
Oui, parce que dans les pays émergents, donc en particulier les BRICS, on met des situations historiques différentes. Il y a un pays comme la Russie, l'ex-URSS, qui n'est pas émergent puisqu'il a déjà une industrie développée. On a un pays comme la Chine, dont on sait que le processus a été long, c'est depuis 1949 au moins, et avec des phases politiques très différentes. L'époque de Mao Tse-tung et l'époque de ses successeurs ne sont pas exactement pareils. On met le Brésil où il y a eu une longue dictature militaire et ensuite un régime qui s'est démocratisé mais avec un problème ethno-racial important. Il y a des pauvres, notamment avec les Noirs. On y met également l'Afrique du Sud qui a une trajectoire différente. Alors aujourd'hui, Vous avez été ministre de la prospective au Togo, donc vous étiez chargé de ces questions. Alors, comment dans un gouvernement fait-on pour évoquer la prospective? Le Togo ayant été, je pense, l'un des rares pays à avoir un véritable ministre de la prospective.
Tout à fait. Ce qui était intéressant dans le cas togolais, c'est qu'on avait trois temporalités prises en charge par trois ministères différents. Donc le court terme, le temps du ministre de l'économie et des finances, avec une temporalité annuelle, la temporalité du budget. Le moyen terme, avec le ministère de la planification, avec une temporalité quinquennale, celle de la SCAP, notre stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Et le long terme, donc le ministère de la prospective, qui avait en charge la mise en place, la configuration, la réflexion sur la vision du Togo à l'horizon 2030, donc 15 ans. Et donc l'intérêt de la chose, c'est l'articulation entre ces trois temporalités, sachant que plus on s'éloigne dans le temps et moins on a d'impact sur les décisions de court terme. Et du coup, il fallait avoir suffisamment de dextérité pour comprendre qu'à court terme, les dynamiques anciennes pouvaient l'emporter et en même temps intégrer dans ces dynamiques anciennes les éléments nouveaux liés justement à la prospective. Et donc je crois que c'est un peu l'art du ministre de la prospective de savoir mettre le curseur où il faut afin que tout se passe de façon fluide.
Mais en même temps, dans ces trois temporalités, évidemment, c'est très important et c'est bien de voir que le gouvernement a compris qu'on n'était pas dans un temps unique, mais qu'on était dans plusieurs temps. Mais en même temps, le temps du gouvernement est le temps de la politique, donc avec des échéances électorales et autres, avec des engagements par rapport aux partenaires internationaux. Comment on articule ça concrètement dans un gouvernement ?
Non, je crois qu'il faut partir d'un principe, c'est que la succession de chocs auxquels nos sociétés sont soumises a un lien avec l'absence de réponse structurelle aux défis du développement. Je crois que c'est le principe qui permet ensuite d'articuler ces trois temporalités. Si on n'a pas ça en tête, on est victime de la dictature des urgences. Et on a l'impression que les chocs proviennent quasiment d'une malédiction divine. Et donc je crois que c'est par la capacité à échanger, à faire des allers-retours, qu'on peut arriver à mettre en synergie ces trois temporalités. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Celui qui s'occupe du long terme est forcément défavorisé dans les arbitrages. Parce que comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui forcément a joué aussi dans la gestion gouvernementale à laquelle j'ai participé.
Mémoire d'un continent. Elikiam Bokolo.
Professeur Nubuko, vous expliquez que dans le long terme où vous vous inscrivez, c'est en quelque sorte pour, comme disait l'autre, gouverner, c'est prévoir. Jusqu'ici, l'Afrique a subi les différents chocs. Le choc pétrolier lui a semblé bénéfique, mais les problèmes monétaires au niveau du monde font que la baisse de certaines matières premières, notamment le pétrole aujourd'hui en 2015, montre que beaucoup de gouvernements qu'on croyait riches et au-dessus des besoins, sont aujourd'hui confrontés à la nécessité du changement. Donc on voit par exemple un pays comme l'Angola miser de plus en plus sur l'agriculture, une agriculture visant à la consommation interne mais aussi à l'exportation, alors que pendant longtemps il semblait assis sur le matelas des dollars pétroliers. Tout ça, est-ce qu'il y a eu une réflexion africaine sur justement les contraintes et les opportunités mondiales?
Justement, je crois que nous arrivons dans une période tout à fait intéressante qui assume finalement le fait que l'Afrique devrait avoir son mot à dire dans le cadre de son propre avenir et bien entendu de son présent. Et je crois que l'évolution paradigmatique au plan mondial nous y aide. Parce que on est dans le troisième temps d'une séquence qui a démarré après les indépendances, avec l'idée de l'État qui pouvait tout, et qui s'est poursuivi ensuite avec l'ajustement structurel à partir du début des années 80, et qui avait tendance à dire que le marché pouvait tout. Et nous sommes aujourd'hui, finalement, dans le troisième temps du triptyque, qui consiste à dire l'État ne peut pas tout, mais le marché ne peut pas tout non plus, et quelle peut être l'articulation idoine entre l'État et le marché pour conduire à la prospérité partagée. Et je crois que c'est dans ce renouveau paradigmatique que l'Afrique essaye de frayer son chemin. Et pour cela, elle devrait s'appuyer sur 5 éléments structurants qui ont été mis en évidence par l'émergence asiatique. C'est d'abord la question du travail. Il n'y a pas de production sans travail. Et donc, l'idée ici, c'est d'arriver à mettre les Africains au travail, la gestion de notre jeunesse, la gestion de la capacité à mettre en adéquation la formation et l'emploi. Deuxième point important, c'est le capital. Il n'y a pas de production sans capital. Et donc, ça suscite tout le développement des infrastructures. La Banque africaine de développement a montré que chaque année, nous perdons 2 points de PIB du fait de notre faiblesse en infrastructure. Troisième point, c'est la capacité d'innovation de la société. Pour vous donner un exemple, pour 1 million de chercheurs, enfin pour 1 million de personnes, la Chine a 890 chercheurs, le Brésil en a 710, et un pays comme le Togo en a 35. Donc c'est pour vous dire que l'effort d'innovation passe par la recherche et donc passe par les chercheurs. Quatrième point, c'est la gouvernance. On a eu tendance à parler de bonne gouvernance, mais de façon générale, c'est la question de la bonne articulation entre les institutions et la gouvernance. La manière dont les Asiatiques procèdent n'est pas celle dont procèdent les Occidentaux. Mais nous savons que la gouvernance compte, la qualité de la gouvernance compte. Et enfin, cinquième point, c'est la cohérence des politiques publiques. Et là, je crois qu'il y a un vrai défi pour nous, Africains, parce qu'il y a ce que j'appelle la grande superposition. C'est qu'à l'heure actuelle, le discours dominant au plan macroéconomique reste un discours néolibéral, avec l'assainissement des finances publiques et une politique monétaire monétariste. Au plan mésoéconomique, donc au plan sectoriel, le discours est de type mercantiliste, c'est-à-dire qu'on parle de transformation des matières premières. Mais historiquement, nous savons que ça n'a pu se faire qu'avec un certain degré de protection, notamment à l'import, et de gains de parts de marché à l'export. Et enfin, le discours au plan microéconomique est fondé sur les droits humains, donc avec les OMD, maintenant les ODD. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment mettre en cohérence ces 3 niveaux du discours. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut tout faire, en tout cas qu'on peut tout dire. Et donc, ce que j'appelle la grande superposition des paradigmes, il va falloir trouver de la cohérence dedans. Donc nous savons ce que les autres ont fait. Et à nous, sur la base de notre contexte, de tirer le plus grand bénéfice de ces acquis et de nous projeter vers cette prospérité partagée pour le bien-être des populations.
Professeur Nukupo, vous avez écrit beaucoup de livres d'économie politique et d'analyse politique, et le Togo fait partie de la CEDEAO. Alors, il y a aussi un problème de niveau, on va dire, territorial, le niveau micro de l'acteur économique dans son champ, dans son entreprise, le niveau méso-national et le niveau panafricain qui lui-même s'emboîte au niveau international. Est-ce que la problématique de l'unité africaine, qu'elle soit régionale, continentale, est-ce que ça rentre dans ces scénarios que vous faites pour le futur?
Oui, tout à fait. Ce dont nous nous rendons compte à l'heure actuelle, c'est que il y a un déficit de leadership. C'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas une vision de long terme pour notre continent. On a l'impression, justement, pour revenir au début de notre discussion, que le court terme prime. Et je crois que dans cette quête de cohérence des politiques publiques, il faut qu'il y ait en amont la vision. Et cette vision, elle doit être panafricaine. Et c'est en ce sens qu'elle rejoint le rêve des pères de l'indépendance. À partir du moment où on l'aura défini de manière claire, et je sais que l'Union africaine, dans le cadre de son agenda 2063, intitulé « Les 50 prochaines années, l'Afrique que nous voulons », en articulation avec ce qui se passe au niveau sous-régional, comme vous l'avez dit, et même national, avec cette triple articulation, le national et le sous-régional et la région, on pourra définir une voie cohérente. Mais je suis assez optimiste parce qu'il y a un vrai dynamisme au niveau de la prospective. Personnellement, j'ai participé au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à la définition de la vision 2020 qui assume finalement trois choses qui me semblent intéressantes. Un projet politique qui devrait être, sinon la fédération, du moins la confédération. Deux, la promotion d'une croissance forte et inclusive. Et enfin, un réexamen des mécanismes de financement. Donc, à ce stade, je crois qu'on a une vision qui devrait permettre d'échanger avec l'ensemble de la CEDEAO et qui devrait aussi, finalement, irriguer ce qui se passe au niveau de l'Union africaine. Et dans le même temps, servir finalement de benchmark, servir de point focal aux visions nationales qui sont en train de s'élaborer. Donc je crois que nous sommes dans une phase de bouillonnement culturel, de bouillonnement intellectuel qui laisse augurer de bonnes choses pour la suite.
Alors finalement, vous parliez de 2063. Madame Zuma expliquait « I have a dream ». Donc j'ai un rêve, reprenant évidemment ce que le pasteur Martin Luther King a dit en son temps. D'autres disent dans l'action, il y a l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. Alors vous êtes un peu au carrefour de ces trois choses, le rêve, la volonté, la raison. Vous avez dit que vous êtes optimiste finalement, donc la raison peut ne pas être seulement la locomotive, mais être un peu l'un des wagons de ce projet collectif pour aller de l'avant.
Oui, tout à fait, et c'est l'occasion de citer Nelson Mandela qui disait bien « Une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un rêve, une action qui n'est pas précédée d'une vision, c'est du temps perdu ». Une vision suivie d'action peut transformer le monde. Et donc, je crois que c'est vraiment dans cette capacité à définir un rêve, mais un rêve partagé, et ensuite pouvoir mobiliser les populations autour de ce rêve, c'est dans cette quête que nous pouvons espérer la transformation structurelle dont nous parlons. Et ce qui me chagrine à titre personnel, c'est que je vois beaucoup de plans d'émergence qu'on vient présenter à Paris, des plans d'émergence africaine. Je crois que le financement de l'émergence fait partie du processus d'émergence. Et je crois que ici, il ne s'agit pas de dire que nous pouvons tout faire nous-mêmes, mais symboliquement, il est important que nos plans d'émergence soient validés en Afrique par les populations africaines d'abord. Et donc, j'en appelle un peu à ce sursaut citoyen pour que ce qui doit être le cœur de notre développement dans les 15, 30, 50 prochaines années, ça puisse être porté d'abord par les populations africaines.
Merci beaucoup, professeur Nubuko, pour être venu à nos micros exposer cette vision du futur qui, évidemment, s'enracine dans les deux temps qui le précèdent, le temps présent et, bien sûr, le temps passé, qui est le temps, justement, de Mémoire d'un continent, une émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.